France Inter.
La France en Europe, c'est le pays dans lequel il y a moins de problèmes finalement qu'au Royaume-Uni qui s'est tiré une balle dans le pied avec le Brexit, l'Allemagne qui a un contexte politique et énergétique qui pèse très lourd. La France a fait un parcours de transformation, de réforme fiscale notamment, depuis 2015-2016. On a vu les entreprises reprendre confiance.
Cocorico, la France reste la plus attractive en Europe aux yeux des investisseurs. C'est l'analyse de Marc Lhermitte du cabinet EY qui vient de publier son baromètre. Pour la 5e année consécutive, nous avons la médaille. Mieux que les Anglais, mieux que les Allemands, ce que les investisseurs aiment chez nous, c'est toujours la qualité de la main-d'œuvre, les infrastructures et l'environnement juridique et réglementaire. À deux doigts de se dire que nous ne sommes peut-être pas cet enfer bureaucratique qu'on nous décrit. Encore plus réjouissant dans ce baromètre, les investisseurs étrangers s'attendent à ce que l'activité en France aille mieux dans les 3 années à venir. Alors il faut regarder le revers de la médaille. Chez nous, il s'agit d'extension plus que de création d'usines. Les gigafactories et même simplement les très grands sites de production, les investisseurs aiment plutôt les faire sortir de terre ailleurs. Et du coup, notre attractivité n'est pas la mieux récompensée en termes d'emploi. En Espagne, un projet, c'est en moyenne 300 emplois créés. En France, 35. Ce pouvoir de séduction, nous le mesurons encore dans 10 jours au sommet Choose Friends à Versailles. On comptera les milliards, ou pas. En tout cas, les PDG de Coca, de Pfizer, de JP Morgan, entre autres, ont été invités. Et pour l'heure, cette première place du podium, c'est quand même l'info positive de la semaine, arrangée sur l'étagère des petites bonnes nouvelles, avec la non-dégradation des agences de notation, avec la croissance à 0,2% au premier trimestre, mais on attendait la stagnation. Bref, tout cela est mieux que si c'était pire.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue à vous. Toute l'équipe est dans les starting blocks. Les réalisatrices Céline Hilla et Anaïs Reynard. Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi. Anne-Laure Cochet signe le mixage. Et Guillaume Roux nous met à l'antenne jusqu'à 10h. L'invité de ce samedi 4 mai, c'est le président d'Ariane Espace, Stéphane Israël. On est dans la dernière ligne droite avant le vol inaugural d'Ariane 6, très attendu. 4 ans de retard sur le programme initial, de longs mois depuis l'été dernier sans accès à l'espace pour l'Europe, entre la retraite d'Ariane 5 et ce lancement. Alors pourquoi aussi aujourd'hui voit-on émerger des start-up qui fabriquent des plus petites fusées qu'Ariane avec la bénédiction des États? Vous entendrez le reportage de Mathilde Dehimi et puis l'interview du patron d'Ariane Espace, ça sera vers 9h40. Madame Vioboulot, ce sont vos questions qui la lancent. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sandrine, notre auditeur Fabrice vous a écrit au sujet des jours fériés.
Il y en a beaucoup ce mois-ci. Que se passe-t-il quand un jour férié coïncide avec un jour de repos? Est-ce qu'il est perdu? Je vous dis ça tout à l'heure.
On vous retrouve juste avant 10h, Sandrine. Mais d'abord, l'actualité, eh bien, c'est la réforme de la fonction publique, toujours, que le gouvernement a initiée. La négociation sur les conditions de travail vient de démarrer cette semaine et certaines mesures issues de cette négo se retrouveront dans le projet de loi à l'automne. Le gouvernement, on le sait, a posé sur la table des pistes. Il y a la semaine de travail en 4 jours, la rémunération au mérite, il y a aussi le temps de travail, le licenciement. On regardera ce qui sortira de l'intersyndicale qui a été programmée lundi. En attendant, nous en parlons ce matin avec Sophie Fay du journal Le Monde. Hello Sophie.
Bonjour Alexandra.
Et Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP. Salut Jean-Marc.
Bonjour.
Quelle réforme pour les fonctionnaires? On fait un petit retour en arrière sonore. Depuis un mois, on a entendu ça.
Stanislas Guérini déclarait ce matin dans les colonnes du Parisien qu'il veut lever le tabou du licenciement chez les fonctionnaires. Réponse du premier syndicat d'agents de l'État, la CGT dépose des préavis de grève du 15 avril au 15 septembre, englobant donc la période des Jeux Olympiques.
Je parle évidemment de réformer la fonction publique.
Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
J'ai annoncé que je mènerai une concertation avec les organisations syndicales, avec les employeurs de la fonction publique et toutes les parties prenantes. On va prendre le temps de la concertation. Je l'amènerai jusqu'à l'été. Mais la façon la plus respectueuse de mener une concertation, c'est de tout mettre sur la table. Et donc, moi, je souhaite pouvoir développer beaucoup plus de mobilité dans la fonction publique et rentrer plus facilement, être promu plus facilement aussi, aborder la question aussi de la façon de sortir de la fonction publique.
C'est le témoignage d'une totale méconnaissance de ce qu'est le travail des fonctionnaires.
Marie-Lise Léon.
Ce que nous disent les fonctionnaires dans l'hospitalière, dans l'éducation, dans la territoriale, ils nous disent on veut avoir les moyens de bien faire notre travail.
Secrétaire général de la CFDT.
Ce qu'a fait le ministre Guérini, c'est de la com. Il pense que c'est populaire de taper sur les fonctionnaires. Moi je dis c'est une politique mortifère et ça n'apporte aucune solution.
Le but n'est pas de supprimer plus de fonctionnaires.
Mathilde Desjonquière, députée Modem.
Le but est de dire, mettons les choses carte sur table, véritablement. Mm-hmm. Parlons de tout dans cette fonction publique qui est un secteur professionnel extraordinaire et qui en même temps interroge parfois des collègues, parfois des chefs de service. Peu importe si ce soit catégorie C, B, A, sur effectivement le mal-être que certains fonctionnaires qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur place.
On devrait licencier plus alors qu'on leur interdit à tous, quasiment, ceux qui sont concernés, de prendre des congés pour les JO. Il faut savoir si on a besoin de fonctionnaires ou si on veut les virer. Au bout d'un moment, il faut quand même une certaine logique, si vous voulez.
Christian Grolier, secrétaire général de la Fédération Générale des Fonctionnaires de Force Ouvrière.
Quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas négocier et qui prétexte 3-4 réunions de concertation jusqu'au mois de juin avec une présentation du projet, on ne peut pas négocier. Alors si on ne peut pas négocier, effectivement, la seule chose qu'on sait faire, nous, c'est essayer d'établir le rapport de force.
En France, 3 fonctions publiques d'État, hospitalière et territoriale, 5 700 000 fonctionnaires. Bah, tout le sujet concerne 60 millions de Français en réalité. Et donc, il doit y avoir un projet de loi à l'automne pour l'efficacité de la fonction publique. C'est le titre envisagé. Sophie Fay, je me tourne vers vous. Est-ce que la fonction publique française a besoin d'une réforme ?
Mais comme vous l'avez dit, Alexandra, c'est 5 700 000 personnes qui travaillent pour la fonction publique. Alors, tous ne sont pas fonctionnaires. Il y a 3 800 000 fonctionnaires et les autres sont plutôt des contractuels. Il y a des militaires, des enseignants du privé sous contrat. Alors, c'est un tel poids, c'est-à-dire c'est quand même un emploi sur... c'est 20% des emplois, un emploi sur 5 en France. Donc, il faut effectivement tout le temps se poser la question de est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'on peut améliorer. Mais ce qui est difficile à comprendre là dans cette réforme, c'est que une réforme, on en a eu une il n'y a pas très longtemps. Elle date du... C'est une loi du 6 août 2019. Elle avait été préparée par Olivier Dussopt et après mise en œuvre par Amélie de Montchalin. C'était la grande réforme du premier quinquennat. On devait déjà supprimer l'ENA, avoir une fonction publique avec des meilleures méthodes de management. On devait déjà avoir de l'évaluation, de la rémunération au mérite. Et qu'est-ce que veut dire cette nouvelle réforme ? Est-ce que ça veut dire qu'on a échoué dans le premier quinquennat ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas attendu les effets de cette première réforme ? C'est peut-être un peu rapide. La deuxième chose, c'est qu'elle commence mal. C'est-à-dire que pourquoi démarrer sur cet argument des licenciements alors que justement la précédente réforme avait prévu par exemple un dispositif de rupture conventionnelle et donc bon voilà, on se demande un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette réforme et pourquoi maintenant.
Il y a certainement l'idée que les services publics ont des problèmes, que l'hôpital, que l'école ça ne va pas et que finalement là aussi il y a un problème d'attractivité, Jean-Marc Daniel, de la fonction publique.
Ah oui, je pense qu'il faut absolument une réforme, voire une révolution, parce que personne n'est content. Il y a une insatisfaction générale, d'abord du personnel. On l'a vu avec les témoignages des syndicalistes, c'est quand même l'État plus la SNCF plus la RATP, c'est la moitié des jours perdus pour fait de grève dans ce pays. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il y a la conflictualité sociale la plus forte. Insatisfaction des usagers, enfin des contribuables. Tout le monde se plaint. Quand on peut échapper par exemple à l'éducation nationale, on échappe à l'éducation nationale. Il n'y a jamais eu autant d'élèves dans le privé. Il y a 17% maintenant des élèves qui sont scolarisés dans le privé. Avec une évaluation du résultat de l'éducation nationale qui n'arrête pas de se dégrader quand on regarde les classements internationaux, avec une attractivité...
On n'arrive pas à trouver les profs.
On n'arrive pas à trouver les professeurs. Il y a une insatisfaction du gouvernement lui-même. Il n'arrête pas de dire qu'il va y avoir des réformes. Et puis, il y a quand même eu le scandale de McKinsey. C'est-à-dire que dans cette fonction publique qui est supposée recruter au niveau supérieur les gens les plus brillants. Je rappelle que les grandes écoles de ce pays ont été créées pour fournir la fonction publique. Mmh. L'ENA a disparu, mais l'école normale supérieure, l'école polytechnique, avait comme vocation et continue à fournir les hauts cadres de la fonction publique. Et quand il s'agit s'agit de prendre des décisions, on va chercher McKinsey. Au moment de la Covid, on est allé chercher McKinsey. Donc, personne n'est content, que ce soit...
Mais vous me parlez qualité ou vous me parlez finance? Parce qu'en fait, quand on entend le mot réforme, on se dit toujours, bon, il y a un objectif d'économie.
Les deux, c'est-à-dire que, vu ce que ça coûte, hein, ça coûte quand même... On est le pays au sein de l'Europe où on consacre le plus, sous forme de masse salariale, à la fonction publique, 12% du PIB. Et donc... avec en face, encore une fois, cette insatisfaction générale. Mmh. Donc, il faut répondre par, je dis, des réformes. Alors, Sophie l'a dit, il y a déjà eu des réformes. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas assez loin. Mmh. Ça veut dire qu'on ne va pas traiter les vrais problèmes.
Alors, je reviens à mon idée de finances publiques. Sophie Fay, est-ce que si on dépense beaucoup pour notre fonction publique, ce n'est pas parce qu'on en attend particulièrement beaucoup aussi? Les Français confient toujours plus de missions à l'État ou attendent de plus en plus de missions à l'État?
Alors, est-ce qu'on dépense vraiment beaucoup plus pour notre fonction publique? Ça, c'est aussi c'est un point à voir. Hein. Quand on regarde les comparaisons internationales, c'est très difficile parce que tout le monde n'a pas la même définition du fonctionnaire. Mais quand on regarde la moyenne dans l'OCDE, c'est 19% d'agents publics. Il y en a beaucoup moins en Allemagne, mais l'Allemagne ne prend pas en compte ces agents hospitaliers dans les agents publics. Ils considèrent que c'est du privé. Mais il y en a beaucoup plus dans les pays d'Europe du Nord. Et en gros, la France est au milieu entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud et l'Allemagne qui... il y a beaucoup plus de fonctionnaires dans le Sud et beaucoup plus de fonctionnaires au Nord, beaucoup moins au Sud, et on est à peu près au milieu. Donc dire que c'est plus ou moins, et c'est pas vraiment ça qu'adresse la réforme. En fait, ce que veut faire Stanislas Guérini, le ministre, il a vu qu'il y avait un problème d'attractivité, donc beaucoup moins de candidats pour certains concours, et il voit qu'à 70 000 postes ouverts dans la fonction publique qui ne sont pas pourvus, et donc il voudrait faire revenir des gens vers la fonction publique. Alors, il faut regarder, parce qu'il y a des généralités, mais il y a aussi des domaines où il y a beaucoup de candidats. On a fait récemment dans Le Monde un article sur l'INET, qui est l'école qui forme les dirigeants, les jeunes dirigeants de la fonction publique territoriale. Et bien là, on a vraiment une progression du nombre de candidats et de plus en plus de sélectivité. Donc quand c'est pour avoir des missions concrètes au plus proche du terrain, il y a des candidat de l'enseignement supérieur. Pour le reste, donc, il veut rendre ses fonctions plus attractives et il veut résoudre aussi tout un tas de petits points de blocage. Il donne des exemples. Par exemple, si vous avez dans une commune un expert sobriété énergétique qui est agent de catégorie C, donc la première catégorie chez les fonctionnaires, qu'il est très demandé, y compris parce qu'il reçoit des offres du privé, que vous voulez le promouvoir et l'augmenter, le faire passer catégorie B, vous êtes obligé de lui faire passer un concours, donc vous n'y arrivez pas. Quand vous avez un alternant qui passe 2 ans dans votre service et que vous voulez ensuite le recruter définitivement dans la fonction publique, pareil, il faut lui faire passer un concours. Et donc, parfois, entre le moment, la fin de l'alternance et ce concours, vous perdez le candidat.
Donc, fin des catégories, ça fait partie des pistes sur la table.
Ça fait partie des pistes sur la table. Ce qui est un peu bizarre, c'est que pour l'instant, le ministre a mis tout ça à la concertation. Donc, c'est-à-dire qu'il a donné des grands principes. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de proposition concrète. Et il demande aux syndicats de négocier là-dessus, sur les conditions de travail, sur les Jeux Olympiques, tout en même temps, pour arriver à une loi en septembre, qu'on présente comme une loi de travail, donc comme s'il fallait remettre les fonctionnaires au travail comme il faut remettre les chômeurs au travail, alors que c'est peut-être pas la meilleure manière de présenter les choses pour motiver les gens.
Jean-Marc Daniel, les pistes sur la table, je liste un petit peu, la fin des catégories ABC, la semaine en 4 jours, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, la rémunération mérite, et puis cette idée qu'il fallait faciliter les licenciements pour insuffisance professionnelle. Qu'est-ce que vous retenez, vous?
Moi, je retiens 2 mesures essentielles qui sont la rémunération au mérite, c'est-à-dire le fait que, effectivement, la façon de travailler va être prise en compte dans l'évolution de votre carrière. Et puis, les licenciements, parce que derrière les licenciements, il y a cette idée que, quand on rentre dans la fonction public, normalement, on y reste 40 ans. Et avec ces catégories ABC, en plus, on est sur sa propre fonction. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun métier où on peut considérer que pendant 40 ans, désormais, dans l'évolution de l'économie, on va faire exactement la même chose. Et donc, je pense que il faut pouvoir, effectivement, faire de l'oxygénation avec un apport extérieur et un apport extérieur pendant des périodes qui sont des périodes relativement limitées de temps. Mmh. D'ailleurs, c'est déjà enclenché. C'est-à-dire que, Sophie l'a dit, il y a de moins en moins de gens qui ont le statut dans la fonction publique d'État. Il y a 60% qui ont un statut statut de fonctionnaire. Et il y a un peu plus de 20%, indépendamment des militaires, donc ça fait 80%, le reste c'est des militaires, il y a 20% qui sont des contractuels. Et on voit bien, je prends l'exemple de l'attractivité sur les professeurs de mathématiques. Non seulement on n'arrive pas à recruter suffisamment de professeurs de mathématiques, mais ce qu'on a découvert, c'est que le niveau de ces gens qui arrivent avec des diplômes de bac plus 3 ou bac plus 5 est un niveau qui est inférieur à celui d'un élève de première ou de terminale. Au dernier concours, ils étaient supposés faire des calculs de pourcentage. Il y a des gens qui ont un master de mathématiques qui ne sont pas capables de calculer un pourcentage. Et donc, il y a un véritable, non seulement manque d'attractivité, mais manque de qualité. Qu'on puisse avoir un master de mathématiques sans avoir la capacité à faire des calculs les plus élémentaires, c'est devenu un vrai problème. Et donc, je pense qu'il faut avoir des gens avec un esprit de mission. Il faut redresser la situation. Donc, pendant 4-5 ans, on prend quelqu'un que l'on paie très cher, que l'on paie bien, pour reprendre en main la situation. Et puis, au bout de 4-5
ans... Quelqu'un qui n'a donc pas le statut, c'est ça que vous êtes en train de
dire. Qui n'a pas le statut et qui, au bout de 4-5 ans, va faire autre chose.
C'est ça, votre révolution. Je vous vois, Jean-Marc Daniel. C'est ça, votre révolution, la fin du statut. Hein.
Oui, absolument.
Alors, on a un contre-exemple parfait qui est l'université. En fait, à l'université, on a 60% de vacataires maintenant. On a de moins en moins de professeurs et d'enseignants en statut. Et le résultat, c'est peut-être ce qu'on voit quand Jean-Marc Daniel dit que les étudiants en master n'ont pas le niveau. Bah, peut-être que c'est parce qu'on a fragilisé l'université avec en privant les enseignants de ce statut et en leur privant d'une certaine liberté. Le risque du licenciement, c'est que ce contrat, cette rémunération à vie qui est garantie aux fonctionnaires, elle doit leur permettre de résister aux ordres politiques et surtout aux ordres qu'on pourrait leur donner qui sont illégaux. Les instructions qu'on leur demande de faire des choses qui ne sont pas autorisées. Eh bien là, le statut les protège de ça. Puisque même s'ils disent non, ils ne sont pas en train de chercher leur prochain emploi, ils ne sont pas en train de chercher d'attendre leur prochain salaire ou de devoir plaire à leur chef pour ça. Et donc, supprimer ça en ce moment, quel est l'intérêt, quoi ?
Bon, c'est pas la piste je tiens à signaler à ce moment-là pour les auditeurs, c'est pas la piste du ministère. On est en train de discuter de la piste révolutionnaire de Jean-Marc Daniel.
Oui, parce que l'emploi à vie, qui est effectivement une des grandes caractéristiques de la fonction publique, est en train de disparaître partout autour de nous. En Italie, il y a plus que 15% des effectifs de la fonction publique qui ont l'emploi à vie. Et dans des pays comme la Suède, le statut même a disparu. Il y a plus qu'un nombre très restreint de fonctionnaires qui ont un statut avec une garantie effectivement de protection qui est essentiellement les fonctionnaires qui travaillent dans la justice et dans la diplomatie. Et c'est des mesures qui ont été prises il y a très longtemps hein, et qui ont été prises par des gouvernements de gauche en Suède. Et donc, le statut, l'idée, encore une fois, d'un emploi à vie, d'une carrière qui se déroule, d'une vie qui est une vie...
Mais Sophie vous dit qu'on n'est pas sûr que ça se passerait mieux pour autant. Est-ce qu'on discute d'une autre piste, la semaine en 4 jours, par exemple ? On dit ça pour les fonctionnaires. Est-ce qu'on avance un peu ?
Alors, la semaine en 4 jours, dans la fonction publique, c'est un peu comme dans le reste de l'économie. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des salariés qui peuvent télétravailler, généralement. Ce sont ceux qui sont dans les bureaux, ce sont ceux qui sont cadres et qui ont les boulots peut-être les moins pénibles. En revanche, pour tous les gens qui sont sur le terrain, qui ont le contact avec le public, pour qui c'est plus difficile, là, c'est impossible de faire du télétravail. Donc, pour cela, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on peut leur permettre de rester une journée chez eux, de grouper leurs horaires sur 4 jours. Cette journée chez eux leur permet d'économiser de l'essence, des trajets, de gagner du temps, de mieux s'organiser. Alors, pour l'instant, les pistes sont des expérimentations. On en a dans la fonction publique, c'est ce qu'ouvre Stanislas Guérini, mais il y en a aussi à la RATP, il y en a dans les grandes entreprises, il y en a un peu partout. C'est pour répondre aux conséquences du Covid.
Mais c'est intéressant, mais ça n'est pas effectivement ce que demandent les fonctionnaires. C'est-à-dire, si on écoute les syndicats, j'ai le sentiment qu'ils demandent plus de rémunération. C'est quelque part, c'est aussi ce que vous dites, Jean-Marc Daniel, quand même. C'est qu'il faut, des fonctionnaires mieux, enfin, des agents de la fonction publique mieux rémunérés.
Oui, je pense qu'il y a un choix qui a été fait il y a une quarantaine d'années, qui est un choix de paupérisation de la fonction publique, avec en échange une augmentation systématique et régulière des effectifs. Et je pense que ce choix était une erreur. On arrive dans une situation où d'abord, il y a des endroits où, vous l'avez dit, le combat c'est de faire en sorte que les gens fassent les 35 heures. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des combats que mènent les préfets contre un certain nombre de collectivités territoriales pour que les fonctionnaires fassent les 35 heures. La durée moyenne de travail dans la fonction publique territoriale c'est 1572 heures, alors que ça devrait être 1660 heures. Et donc je pense que ce choix est un choix qui était une erreur. Il vaut mieux avoir moins de fonctionnaires, mieux payés, avec des finitions claires et avec la capacité effectivement, une fois qu'ils ont rempli cette mission, d'aller voir ailleurs pour exprimer leur destin.
On revient à ce vieux débat, Sophie Fay, c'est le mot de la fin. Le moins de fonctionnaires.
Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on veut systématiquement plus de fonctionnaires, on demande plus de professeurs devant les élèves, on demande plus de policiers, on demande plus de juges, plus de personnel à l'hôpital, et donc c'est difficile de vouloir baisser le nombre de fonctionnaires. Cette ce discours-là, on l'entend depuis 30 ans et ça ne fonctionne pas, puisque quand Nicolas Sarkozy a baissé le nombre de fonctionnaires, immédiatement après, on en a réembauché. Et donc, il faut se poser la question, à mon avis, différemment.
Sophie Fay et Jean-Marc Daniel, les débatteurs de ce samedi 4 mai.
La déindustrialisation est
une
maintenant qu'on y a cette économie.
On passe à l'économie en version originale, un mot qui est à la une ailleurs et qui raconte l'écho d'un pays. Alors demain, le président chinois arrive en France. Dans la tête de Xi Jinping, quelle ambition pour l'économie chinoise? Écoutez. Allez, j'essaye. Xinjie Shengtan Li, ça veut dire les nouvelles forces productives. Et le président Xi vient d'expliquer le concept. Le développement des nouvelles forces productives ne signifie pas négliger les industries traditionnelles. Ça signifie promouvoir l'innovation scientifique, technologique et industrielle, promouvoir la modernisation des industries traditionnelles et développer de nouvelles industries stratégiques. Bonjour Sébastien Berriot.
Ni hao, Alexandra, et bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Chine. Alors avec vous, on va être concret. Hein. La Chine qui doit donc développer de nouvelles forces productives, Sébastien, ça veut dire qu'elle met l'accélérateur sur quelles industries ?
Eh bien, ça veut dire que les Chinois sont en train de changer complètement leur stratégie de croissance. La Chine n'abandonne pas, on vient de l'entendre, ses activités traditionnelles, l'acier, le charbon. La Chine veut également conserver son statut d'usine du monde grâce à ses nombreuses manufactures. Mais tout cela, clairement, n'est désormais plus la priorité. Xi Jinping a donné le ton pour la première fois au mois de septembre dernier en utilisant cette expression « les nouvelles forces productives ». Repris depuis en boucle par les médias officiels chinois. C'est un nouveau modèle de croissance basé sur les technologies de pointe, misé davantage sur la qualité plutôt que sur la quantité, c'est-à-dire le contraire de ce que faisait la Chine jusqu'ici. Ça signifie que Pékin va concentrer ses efforts sur des secteurs comme les véhicules électriques, les panneaux solaires, les batteries, l'intelligence artificielle ou encore les semi-conducteurs. Et quand Xi Jinping donne le ton en Chine, où ça vous savez qu'il n'y a pas vraiment le choix. Alors le gouvernement central, les provinces, les municipalités, tous les acteurs sont mobilisés et rivalisent d'idées pour lancer de nouveaux projets, de nouvelles recherches conformes donc à ce concept de nouvelles forces productives.
Et Xi Jinping arrive à Paris demain, dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? Est-ce qu'il en sera question de ces nouvelles forces productives pendant cette visite?
Alors peut-être pas de manière directe, mais le sujet sera certainement sur la table parce que ce nouveau modèle de croissance chinois, eh bien, il inquiète particulièrement les Européens qui redoutent de voir arriver encore plus de véhicules électriques et de panneaux solaires en provenance de Chine, conséquence notamment d'un phénomène accru de surproduction sur le sol chinois. Quant à savoir si ce nouveau concept est vraiment la bonne solution pour sauver l'économie chinoise, eh bien il y a des doutes, risque de surcapacité, on vient de le dire, mais aussi risque social. Les nouvelles forces productives ne sont pas pourvoyeuses d'emplois et ne vont pas résoudre le nouveau problème du chômage en Chine, notamment chez les jeunes.
Sébastien Berriot avec nous de Pékin. Dans moins de 10 minutes, notre invité, c'est le président d'Ariane Espace, Stéphane Israël. Alors qu'on attend toujours de connaître la date du vol inaugural d'Ariane 6, question sur l'accès à l'espace, question sur la compétition avec les États-Unis et la Chine, justement. L'espace, c'est de la souveraineté, c'est du commerce aussi. Le nombre de satellites mis en orbite est en pleine explosion. Dans les 10 prochaines années, 28 000 devraient être envoyés dans l'espace. Et pas seulement avec des grandes fusées, hein, comme Ariane ou la Falcon 9 de SpaceX. Depuis quelques années, on voit un marché de plus petites fusées se créer. Il s'agit de lanceurs qui font moins de 20 mètres de haut et dont on entend que les premiers modèles européens pourraient décoller d'ici 2 ou 3 ans. La France tente l'aventure, c'est une décision très récente et une méthode inédite. L'État soutient des start-up pour que ce soit elles qui développent ces micro et mini lanceurs. C'est par exemple ce qui se passe chez Hyperspace. Nous y sommes ce matin avec notre reporter Mathilde Dehimy chez cette start-up. Derrière l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, tout se passe dans un hangar discret. Il ne reste qu'à le trouver.
Ça doit être là, un entrepôt anonyme. On dirait pas qu'il y a une fusée à l'intérieur. Enchanté.
Enchanté.
Ah ben voilà, on a une trace de fusée.
Voilà, exactement.
Est-ce que je commençais à avoir un doute?
Non, non, c'est bien ici. Voilà, donc là, c'est montage du moteur en cours. Et il y a beaucoup de monde qui bouge partout. Là, il fait 1 mètre de diamètre pour environ 6 mètres de long. Là, va être essayé dans les semaines qui viennent sur le banc d'essai pour être mis à feu.
Je suis Sylvain Bataillard, cofondateur de Hyperspace et actuellement directeur de la stratégie.
L'idée, c'est de faire quoi avec ce moteur?
Une fusée qui fera environ entre 16 et 18 mètres de haut pour aller mettre en orbite des petits satellites. Décollage prévu pour le premier trimestre 2026. En fait, une fusée, c'est surtout un moteur piloté par un ordinateur. Le coût du moteur représente 90% des coûts à investir. Et nous, ce qu'on fait là, c'est un moteur beaucoup plus simple, mais tout aussi efficace que les technologies qui existent déjà. L'objectif, c'est de proposer un accès à l'espace vraiment pas cher grâce à une technologie qui est simple. Un coût de lancement plus faible de 50% par rapport aux technologies standards de propulsion, comme la propulsion liquide. Le micro-lanceur, c'est un marché assez spécifique qui s'adresse aux petits satellites qui ont un besoin vraiment spécial d'aller sur une orbite très précise qui est peut-être pas desservie en général par les grosses missions transporteurs ou les gros lanceurs. Ou alors, ça peut être aussi des besoins de lancement très réactifs où on veut tirer dans 3 semaines et pas dans 6 mois. Le client principal, il sera prêt à payer un petit peu plus, mais ça sera pas pour le même service. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça peut être de la télécommunication, ça peut être de l'imagerie, connectivité de tous les objets depuis le sol, ça peut être des satellites militaires, des projets universitaires. Il peut y avoir énormément de choses, en fait, avec la miniaturisation de l'électronique. Faire un petit satellite, c'est pas devenu à la portée de tout le monde, mais presque.
Hyperspace est l'un des 4 lauréats du premier concours de start-up organisé par la France. L'État, plutôt que d'attribuer des subventions classiques, a choisi là d'être le premier client de ces futures fusées en leur achetant le premier vol de transport de satellites. Les gagnants, Hyperspace, Latitude, Sirius et la filiale d'Ariane Group, MayaSpace, vont donc se partager 400 millions d'euros d'aide, une commande essentielle pour Sylvain Bataillard d'Hyperspace.
On change vraiment de dimension de financement, de visibilité et d'attente aussi, puisque du coup on se retrouve avec notre premier client officiel, qui est le CNES, donc l'État français, qui nous achète nos premiers lancements. Et donc à chaque fois qu'on passe un jalon technique, on débloque une tranche de financement. C'est la technique qui va faire la sélection. Il n'y a pas que les grands groupes dans la vie, et ça fait plaisir que le gouvernement ait vraiment pris la pleine mesure de ce qui se passe.
L'État tente de propulser des start-up françaises avec en ligne de mire la première grande compétition à l'échelle européenne, et ce sera l'an prochain. Cette mise en concurrence d'entreprises privées, c'est celle que la NASA a lancée il y a déjà 15 ans et qui a permis à Elon Musk d'émerger dans le spatial. Pour les mini-lanceurs, l'Europe est à la traîne, aucun n'a encore décollé du continent. En France, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, a sélectionné les meilleurs projets et va donc accompagner ces start-up en tant que premier client.
On est dans le bureau de Karine Leveau, directrice du transport spatial au CNES. Un bureau où il y a 2 grands écrans, une horloge temps universel, Paris et Kourou, et un nombre incalculable de maquettes d'Ariane, notamment.
C'est pour nous une première fois de se positionner comme client d'ancrage en achetant un service de lancement. On pense que l'assurance d'avoir le CNES comme client d'ancrage permettra de rassurer des investisseurs privés quant au sérieux, à la crédibilité et à la maturité du projet porté par ces sociétés. Il y a beaucoup aujourd'hui de projets de développement de micro-lanceurs et tous n'aboutiront pas. Immanquablement, plusieurs d'entre eux rencontreront des difficultés techniques. On espère qu'il y ait au moins, in fine, 1 ou 2 champions français qui arrivera à trouver sa place. Mais c'est vrai que, par exemple, l'Allemagne a démarré beaucoup plus tôt que nous. Ils ont quelques années d'avance. On essaye, par l'accompagnement au travers de cet achat de démonstration de services de lancement, leur permettre de rattraper le retard. La vérité, c'est qu'effectivement, on a démarré plus tard que les autres au niveau de l'écosystème français.
We're building satellites at scale.
À 7h, un seul mini-lanceur est opérationnel, Rocket Lab. L'Américain néo-zélandais a réussi 9 tirs l'an dernier.
We might have started with rockets, but today, Rocket Lab is a major space prime. We're designing, manufacturing and operating satellites for government and commercial customers.
Mais Rocket Lab perd beaucoup d'argent, plus de 170 millions d'euros en 2023, car transporter uniquement des satellites n'est pas assez rentable. Les startups comme Hyperspace sont prévenues, il faudra proposer des services en plus pour amortir les lancements ou alors développer des lanceurs de plus grosse taille.
With more than 40 Rocket Lab satellites in development across our factories right now, there's more than just rockets in this lab.
Ce marché des mini-fusées pourrait bousculer en profondeur le spatial, une évolution que les analystes spécialisés de Novaspace suivent de près depuis leur siège de la Défense.
Maxime Puteaux, je suis conseiller industrie chez Novaspace, ex-Euroconsult. Le calcul économique du micro ou du petit lanceur, en général, il n'est pas encore très bon. Donc, c'est extrêmement coûteux. Les investisseurs se sont précipités dans certaines années dans le financement de ces projets-là, parfois sans considération vis-à-vis de la rentabilité réelle des projets. Et on peut s'attendre à ce que déjà le robinet se ferme. Sur les 18 milliards qui ont été élevés par des lanceurs depuis 20 ans, 7 ont été au bénéfice de ces projets de petits et micro-lanceurs. Seulement, on a vu en 2023, uniquement 170 millions de dollars levés pour ces projets-là, donc vraiment un tarissement. L'idée, c'est qu'on est vraiment dans une phase d'attentisme où les projets ont reçu énormément de financement. Il y a des sociétés qui ont levé plus d'un milliard. À elles de prouver qu'elles arrivent à démontrer les premiers prototypes, à atteindre l'orbite, pour ensuite aller chercher des fonds supplémentaires. Donc la promesse est pour l'instant pas encore tenue. On verra si les acteurs européens arrivent à faire mieux. L'intérêt du micro et du petit lanceur, c'est qu'il porte en lui l'ADN du changement et de l'innovation. Si on le considère comme un produit fini, ce n'est pas un marché en soi durable. Par contre, si on considère que ces petits micro-lanceurs ont des perspectives et peuvent être, à travers des évolutions successives, des lanceurs de moyenne catégorie, donc de plus grande capacité, voire des lanceurs lourds, type Ariane 6 ou Falcon 9, on peut se dire que ces petits micro-lanceurs, finalement, sont des manières d'apprendre à faire de l'espace, plus simplement, moins cher, plus rapidement, pour ensuite monter en gamme. C'est un petit peu le bac à sable des lanceurs. Il y a probablement dans ces micro-lanceurs-là l'héritier illégitime ou indirect d'Ariane 7. On a besoin d'un lanceur lourd en Europe. La question, c'est qui le fera? Combien il y en aura? Ça rebat complètement les cartes. Avant, entre guillemets, le tuyau, il était identique pour tout le monde. Aujourd'hui, on a plein de tuyaux différents. On a plein de manières de les assembler. On a aussi plein d'acteurs différents, alors qu'autrefois, on était sur des fournisseurs très établis, très classiques. Là, on a un fourmillement d'acteurs qui, finalement, crée beaucoup d'incertitudes, d'interrogations, mais aussi d'émulations sur ce que sera le spatial dans quelques années. Est-ce que toute cette ébullition va redescendre et se sédimentera avec quelques gros acteurs, ou est-ce qu'au contraire on va être dans un changement d'échelle avec des petits qui seront devenus grands aux côtés des géants existants? Tout ça, c'est un peu incertain et c'est ce qui rend en fait l'étude de ce secteur passionnant.
Jusqu'où nous emmèneront les mini-fusées? C'était le reportage de Mathilde Dehimi.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le président exécutif d'Ariane Espace est l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue Stéphane Israël.
Bonjour.
Alors le grand sujet pour vous, c'est Ariane 6. On attend qu'Ariane 6 décolle. 4 ans de retard sur le programme. Le week-end dernier, 2 satellites Galileo, ça c'est majeur, c'est notre GPS européen, se sont envolés avec la fusée Falcon 9 de SpaceX et pas avec une fusée Ariane. Vous, Stéphane Israël, qui représentez le grand lanceur européen, voir Elon Musk assurer ce lancement, est-ce que ça ne vous a pas fait mal au cœur ?
En tous les cas, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est que le jour de ce décollage, la Commission européenne a décidé d'annoncer 2 Ariane 6 supplémentaires pour déployer Galileo, et je crois que le signal était clair. Il y a une situation qui a obligé la Commission européenne, pour des raisons que nous comprenons, à avoir recours à un autre lanceur qu'Ariane.
Alors dites-nous, quelle situation ?
Alors cette situation, si on fait un peu
c'est
d'histoire,
ce qu'on appelle la crise
puisque
des
c'était la crise des lanceurs, en fait, ces satellites auraient dû être lancés par la fusée Soyouz, dans le cadre d'un partenariat partenariat entre la France, l'Europe et la Russie que portait Ariane Espace. Ce partenariat s'est très brutalement interrompu quand la Russie a envahi l'Ukraine. Il y avait 4 satellites Galileo qui devaient être lancés par la fusée Soyouz, pas par la fusée Ariane. Et ça, c'est très important de le comprendre. La fusée Ariane était trop grosse pour lancer les satellites institutionnels. Elle n'avait plus de moteur réallumable qui lui aurait permis de faire ses missions. Donc ça devait être 2 Soyouz. Exit les 2 Soyouz avec l'invasion russe de l'Ukraine. Malheureusement, pas de solution encore avec Ariane 6 qui va arriver maintenant. Du coup, ils sont lancés par un autre lanceur. Mais le jour de cette mission, la Commission européenne a dit « L'avenir, c'est Ariane 6. On vous confie 2 missions supplémentaires. Nous avons dans notre carnet de commandes 5 lancements à faire pour Galileo. C'est ça qui est important dans la durée. »
Mais sur l'enjeu du spatial et de l'accès à l'espace, on voit que les États-Unis sont une puissance spatiale. Bon, là, il n'y a aucun doute. Il y a Elon Musk et la NASA. La Chine, hier, a encore lancé une sonde. C'est un exemple pour aller prélever des échantillons sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Lorsqu'on pense que l'Europe n'a pas accès à l'espace depuis juillet dernier, c'est grave ?
L'Europe va avoir de nouveau accès à l'espace, donc
si vous voulez me répondre en positif,
voilà, je vais
à
vous
quel
répondre...
point, mais j'imagine, je vois. Et c'est, donc, à quel point est-ce important d'avoir accès à l'espace ?
C'est effectivement très important d'avoir accès à l'espace. L'Europe s'est retrouvée dans une situation inédite du fait de l'interruption de la fusée Soyouz, du fait des difficultés de la fusée Vega et des recalages de planning Ariane 6. Donc ce point est clair, mais la lumière est en train d'arriver au bout d'un tunnel, effectivement, qui a été un peu compliqué pour nous tous. Et Ariane 6, qui doit voler entre la mi-juin et la fin juillet, est sur son pas de tir. Les satellites qui vont être à bord de cette Ariane 6, on pourra y revenir, sont partis de notre siège social à Évry pour aller vers la Guyane. On est, je dirais, dans la dernière ligne droite vers ce premier vol d'Ariane 6.
Et ce que vous nous dites, c'est que tout va bien, c'est-à-dire la fusée, ça y est, si on doit la voir, elle est montée intégralement, la cargaison, les passagers, vous appelez ça des passagers, ils sont là.
Alors, effectivement...
La revue des qualifications est faite.
Donc, je vois que vous êtes effectivement très bien informé. La revue de qualification s'est tenue cette semaine sous la présidence de l'Agence spatiale européenne et elle a permis effectivement d'engager la campagne. Le lanceur est sur son pas de tir avec ce qu'on appelle son corps central et ses deux moteurs à poudre latéraux et les 18 passagers qui vont être donc à bord de ce premier lancement sont arrivés en Guyane. Donc on est vraiment maintenant dans les derniers moments qui vont nous séparer de ce premier vol qui interviendra cet été. Alors... et je laisserai... Allez-y.
Non, la fenêtre de tir, je vais être plus précise. Le patron du CNES, il a dit fenêtre de tir fin juin, début juillet. Il l'a dit à Kourou. C'était un dialogue avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous confirmez ?
Je ne vais quand même pas infirmer ce que le président du CNES, notre agence spatiale, a dit devant le président de la République. La fenêtre de tir, elle est entre donc la mi-juin et la fin juillet. Et je pense que l'Agence spatiale européenne va être en mesure maintenant très rapidement de resserrer cette fenêtre de tir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans cette fenêtre de tir et qu'on est vraiment maintenant dans les dernières étapes. Le lancement n'a jamais été aussi près et c'est évidemment très important pour l'Europe.
Et avec, alors donc, on a Ariane 6, elle va bien, elle est prête à décoller, on saura bientôt. À quel point est-elle compétitive ? Parce que si on regarde, vous avez déjà un carnet de commandes, et Ariane 6, dites-moi si je me trompe, ça va être une dizaine de tirs par an. Mais quand on sait que Falcon 9, SpaceX, donc Elon Musk, il en fait une centaine par an, on sait aussi que SpaceX fait des fusées réutilisables, Ariane 6 n'est pas encore réutilisable. Est-ce que ce lanceur européen, il est compétitif ?
Alors, ce lanceur européen, il a deux vertus. Il est parfaitement adapté aux besoins institutionnels de l'Europe, que ce soit les satellites Galileo dont on a parlé, les satellites de météo. On va lancer 4 satellites de météo avec Ariane 6 dans les années qui viennent. Que ce soit aussi les missions lourdes. On va aller sur la Lune avec Ariane 6. C'est la grande mission Argonaute des années 2030. Donc d'abord, c'est un lanceur fait par les Européens, adapté aux besoins des Européens. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est que c'est une très grosse fusée. On a parlé des petites fusées et c'est très bien, mais faut reprendre quelques ordres de grandeur.
On va en reparler.
Donc, c'est une très grosse fusée. Elle peut faire 23 tonnes en orbite basse. Et cette grande capacité va être très utile à un moment où il y a des projets de grandes constellations. On va déployer la constellation Kuiper d'Amazon. On a un carnet de commandes qui représente 3 ans d'activité. Donc oui, Ariane 6 est adaptée aux besoins des Européens. elle est adaptée au marché, elle sera compétitive, mais il faut que les Européens restent unis autour de la fusée dans la durée, et c'est ce qu'on fait depuis des décisions qui ont été prises récemment par l'Europe spatiale.
Alors, il y a un projet de constellation européenne, n'est-ce pas? C'est IRIS, vous vous dites IRIS Square, Iris Carré.
On va le faire en français, on va dire Iris Carré, c'est beaucoup plus simple.
Mais ce qu'on vient de découvrir dans la presse, c'est que c'est pas si facile, c'est-à-dire qu'au moment où SpaceX est en train de Elon Musk est en train de tout faire exploser avec ses, il espère lui, 42 000 satellites au-dessus de nos têtes, il espère une méga constellation. Nous, on est encore entre l'Allemagne et la France en train de se disputer.
Bah, vous savez, l'Europe spatiale et l'Europe en général, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus que jamais besoin de cette coalition des forces, notamment par rapport à la concurrence que vous évoquez. Donc, il y a des débats autour d'Iris Carré. C'est normal, c'est un très grand projet de plusieurs milliards et c'est normal que chaque État exprime ce qu'il a envie d'exprimer. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, Iris Carré mettra peut-être un peu de temps, mais je suis très confiant dans l'avenir de ce grand projet. Il y a Galiléo, la constellation de navigation. Il y a Copernicus, et on n'en parle pas assez, c'est une constellation dédiée à l'environnement, à la protection de la Terre, parce que l'espace est fondamentalement bon pour la protection de la Terre. Et il y aura, je l'espère demain, cette constellation souveraine européenne. Elle mettra le temps qu'elle mettra, mais je suis très confiant dans le fait qu'elle existera un jour.
La semaine dernière, Stéphane Israël, à la Sorbonne, dans son discours sur l'Europe, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait inscrire dans les traités une préférence européenne dans le spatial. Sinon, a-t-il prévenu, il n'y aura plus de spatial. Alors, il faut nous expliquer, est-ce que vous espérez qu'après le 9 juin, la prochaine commission s'emparera de cette proposition, préférence européenne, et qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, bah pour nous, c'est absolument clé. Le marché spatial, c'est un marché particulier, c'est pas, si vous voulez, des voitures ou des petits pois, c'est un marché qui en réalité est limité, et c'est un marché où la puissance publique, où l'argent public est partout, si vous voulez, dans la durée, avoir notamment des fusées rentables et des grands projets. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que font les autres puissances? Ben, les autres puissances, elles protègent leur marché. Les Américains, ils vendent, ils lancent leurs projets américains avec des lanceurs américains, sauf quand c'est en coopération. C'est comme ça qu'on a lancé le télescope James Webb. Les Russes, les Chinois, à l'évidence, font pareil. Donc nous, en Europe...
Mais ça, c'est pour l'institutionnel, vous ne parlez pas du commercial.
Je parle de l'institutionnel. Le commercial, il y a une concurrence, c'est parfaitement normal. Il est parfaitement normal qu'un opérateur puisse à un moment décider entre une fusée américaine ou une fusée européenne. C'est parfaitement normal. Mais en revanche, les satellites institutionnels de l'Europe, les Galiléo, les Copernicus, les grands projets scientifiques, il faut qu'ils soient lancés par des fusées européennes. On a fait 2 fusées pour cela, Ariane et Vega, et effectivement, il faut cette préférence européenne. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que l'Europe, c'est pas un numéro de téléphone, c'est plusieurs. C'est la Commission européenne, c'est l'Agence spatiale européenne, c'est la météo européenne, Eumetsat, et les États. Il faut arriver à créer un cadre juridique qui fédère tous ces acteurs et tous ces besoins pour que, si nous sommes disponibles, nous puissions lancer ces grands projets.
Et ce qui est surprenant dans ce que vous dites, c'est qu'en creux, on comprend que ça n'est pas encore... on a mis beaucoup d'argent public dans les fusées, voilà, et ça n'est pas encore le cas. Justement, à propos de l'argent public et de l'argent privé, vous avez entendu le reportage avec nous. Alors donc maintenant, c'est vraiment... Ça date d'il y a quelques mois, hein, ça c'est une décision récente. On a une compétition, ça se passe aujourd'hui en France, ça se passera l'an prochain à l'échelle de l'Europe, pour faire émerger dans votre paysage des mini-fusées avec des start-up. Bon, on a bien vu ça, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une révolution?
Bah, en fait, ce qui se passe en ce moment en Europe, c'est 2 choses. Les Européens ont réaffirmé leur soutien aux fusées développées par l'Agence spatiale européenne, notamment Ariane 6, qui est complétée par le lanceur Vega. Donc ça, c'est le premier pilier, je dirais, de la stratégie européenne. Il y a un deuxième pilier qui est de dire qu'il faut faire émerger 2 nouveaux acteurs pour avoir un tissu innovant qui va compléter ce premier pilier. Et donc, effectivement, là, ce sont tous ces projets de mini-fusées. La maison mère d'Ariane Espace, Ariane Group, a une mini-fusée qui s'appelle Maya Space. Elle met de l'argent dans cette mini-fusée, j'y insiste. Donc, les acteurs privés comme Ariane Group investissent dans le projet Maya Space. Et votre analyste l'a très bien dit, ils sont sur un marché niche, c'est un marché très difficile. Madame Karine Le Vau l'a dit, il y aura sans doute des échecs, mais ça peut participer d'un tissu innovant.
Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à vous jusqu'à des grandes fusées? En fait, c'est ça qu'on voit au bout du chemin. On se dit qu'on va commencer à mettre des start-up et plus d'argent privé dans les grandes fusées à un certain moment.
Alors, ce qui est certain, c'est que Ariane 6 va être la colonne vertébrale de l'accès à l'espace de l'Europe pour au moins 10 ans, ça fait aucun doute. Maintenant, effectivement, ces petites fusées iront sur un marché de niche et peut-être évolueront vers des grandes fusées. Et c'est d'ailleurs toute la stratégie d'Ariane Group qui a Ariane 6 et qui a avec Maya une petite fusée qui lui permettra d'être sur la ligne de départ de cette concurrence que vous évoquez. Et le moment venu, et on a peut-être ici effectivement ce que sera Ariane 7 demain. Mais donc ça s'appelle marcher sur ses deux jambes avec la fusée Ariane 6 et puis d'autres projets à côté.
Le paysage de l'espace, là, il est tracé jusqu'à, vous nous l'avez tracé jusqu'à 2030, là.
Hein? On est un secteur qui a besoin de visibilité, c'est comme le nucléaire. Et d'ailleurs, le président de la République disait qu'on appartenait aux 5 grands secteurs stratégiques de l'Europe avec les biotechnologies ou les énergies renouvelables. Oui, on a besoin de cette visibilité et on a besoin de se projeter en haut et plus loin avec Ariane 6.
Allez, on verra quand Ariane 6, on attend la date. Stéphane Israël, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho, le président d'Ariane Espace.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, Fabrice vous a écrit d'Eure-et-Loir. Il travaille depuis 20 ans dans une médiathèque municipale, du mardi au samedi. Et depuis 20 ans, lorsqu'un jour férié tombe un lundi, pendant son jour de repos hebdomadaire, Fabrice récupère ce congé perdu. Mais une nouvelle directrice des ressources humaines vient d'arriver, elle remet en cause ce fonctionnement et il vous demande évidemment si elle en a le droit.
Je comprends votre inquiétude Fabrice, surtout cette année. Il y a bien sûr les traditionnels lundis de Pâques et lundis de Pentecôte qui tombent, comme leur nom l'indique, un lundi. Mais c'était aussi le cas du 1er de l'an et ce sera pareil pour le 11 novembre prochain. 4 jours non récupérés, ça fait beaucoup, surtout par rapport aux autres agents municipaux qui, eux, travaillent en horaire classique. Mais voilà, rien n'oblige un employeur à accorder une forme de compensation, en heure ou en argent, à un salarié dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, sauf si une convention collective de branche ou l'accord d'entreprise prévoit expressément le contraire. Et encore, il faut que ce soit bien rédigé, qu'il y ait une distinction claire entre jour de congé et jour de repos hebdomadaire. Ce type de clause peut déboucher sur des batailles juridiques qui donnent mal à la tête. Fabrice, je suis vraiment désolée pour vous, mais la jurisprudence est constante sur ce point. L'an dernier, elle s'est même prononcée sur la semaine de 4 jours. Un chauffeur de poids lourd réclamait un jour de congé supplémentaire. Un jour férié tombait là aussi pendant un des 3 jours de repos. La Cour de cassation lui a donné tort.
Mais quand même, Sandrine, est-ce qu'une entreprise ou une administration peut revenir sur un fonctionnement qui dure depuis des années ?
Effectivement, pour vous et vos collègues, Fabrice, cette compensation octroyée depuis plus de 20 ans constitue ce qu'on appelle un usage. En plus, cette contrepartie a été validée en comité technique paritaire, l'équivalent du comité social et économique dans le privé. Un usage doit répondre à 3 critères. Il doit être accordé à tous les salariés ou à une catégorie d'employés, ce qui est le cas dans votre service, tout le monde en bénéficie. Il doit être attribué régulièrement et déterminé selon des règles précises et objectives. A priori, vous cochez toutes les cases, Fabrice, mais il faut savoir qu'un employeur peut toujours dénoncer un usage. Il doit en informer les représentants du personnel, ce qui peut être l'occasion de négocier un compromis. Il faut également qu'il respecte un délai de prévenance. Si l'usage a duré plus de 10 ans, il ne peut être supprimé avant au moins 6 mois. Fabrice, ça vous ferait gagner l'armistice, c'est toujours ça de prix. Mais pour les années à venir, il est possible que vous perdiez au moins 2 jours fériés par an.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous écouter en podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi en vidéo sur les réseaux sociaux. Juste après le journal, il y aura du cinéma. On aura tout vu. L'émission de Christine Masson et Laurent Delmas avec Pascal Bonitzer pour son film Le Tableau volé avec les comédiens Louise Chevillotte et Alain Chamfort.